Il est l'exemple le plus profond qu'on puisse trouver d'un être qui va jusqu'au bout de lui-même dans la voie faustienne et qui est le plus socialisant, le plus donateur de tous les êtres, puisqu'il nous donne la vie, selon la preuve. Je pense que je vais arrêter sur cette image. Nous ne nous quittons pas. Ceux qui veulent, qui voudront, viendront demain matin avec moi approfondir ces questions pendant 2 ou 3 heures. Mais enfin, vous pouvez me poser des questions. Il n'est que 11h30, donc si quelqu'un d'entre vous trouve le... Non? Hein, tant pis. Alors, je vous dis au revoir. Vraiment, il n'y a pas de questions? Madame? Ah, les 20 prochaines années. Je suis parti un peu loin. C'est vrai que c'était le sujet. Bon, écoutez, les 20 prochaines années, c'est un titre dont je ne suis pas tout à fait responsable. Il y a malhonnêteté à parler des 20 prochaines années où il ne se passera pas grand-chose. Enfin, je suis de ceux qui croient qu'il ne se passera pas grand-chose dans ces 20 prochaines années. Je veux dire qu'il n'y aura pas de catastrophe, si vous voulez. Bon. Mais dites-vous bien que la véritable catastrophe n'est pas celle qui est le plus évident. Que, si vous voulez, il y a des religions qui ont disparu, il y a des villes qui ont été détruites. Et puis, elles sont renées, elles ont recommencé. Il y a eu plusieurs fois, au cours des millénaires, une Assyrie, il y a eu plusieurs fois les Égyptes. Mais, il y a ces civilisations dont je vous parlais tout à l'heure, les civilisations hellénistiques, qui ont vraiment disparu en 100 ans, et d'une manière définitive, qui jamais n'ont rené, ou Akkad, de 4000 ans avant. Et ils n'ont pas disparu à suite d'une catastrophe. Oh, il y a eu des guerres, oui, bon, Rome a détruit à la fois Corinthe, Pella, plusieurs villes en quelques années, Carthage en quelques années. Mais enfin, même les États hellénistiques ne sont pas arrêtés à ce moment-là, ils ont continué un petit peu. En 33, l'un de ces États, Pergame, se donnait à Rome. Se donnait, seulement. Rome n'avait pas besoin de le conquérir. Simplement, ça s'est effrité, ça a disparu. Pourquoi est-ce que ça a disparu? Ben, ça a disparu pour des quantités de raisons. Ça a disparu parce que il y a fait de moins en moins de gens dans les pays hellénistiques. Il y a de plus en plus de Romains, de plus en plus de Chinois, de plus en plus de Numides, de plus en plus de Parthes. Il y a de moins en moins d'hellénistiques. C'est quand dans une civilisation il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de pères, il n'y a plus rien. Il n'y a pas besoin de parler de catastrophe. Pour ne parler que de la France était le 20e du monde sous Napoléon. La population française était le 20e du monde. Maintenant, nous sommes le 100e, mais à la fin du siècle, au début du siècle prochain, nous serons sans doute le 200e du monde. Il n'y a pas besoin d'autre catastrophe. Mais exactement, nous l'aurons obligatoirement. Nous l'aurons obligatoirement. Une autre façon de voir disparaître un pays, c'est de voir disparaître sa terre, c'est de voir disparaître. Or, si vous promenez un peu en France, dans le Midi, dans les Cévennes, dans les Côtes d'Azur, vous n'avez qu'à dénombrer toutes les terres qui ne sont plus françaises. Ça ne passe, ça se passe tous les jours, tous les jours. Les terres ne sont plus françaises, elles sont islamiques, elles sont américaines, elles sont... C'est tout, elles sont achetées, donc elles ne sont plus françaises. C'est tout, ça se fait sous nos yeux, c'est comme ça. Une langue existe par sa population, elle existe par ses territoires, elle existe par sa langue. Bon, qui parle encore français? Qui lit encore français? On ne sait pas que l'anglais est constitué à moitié de français. L'anglais est constitué à moitié de mots français, mais on ne le sait pas du tout. On croit au contraire que c'est nous qui prenons les mots anglais. On ne sait plus, les gens ne savent plus que le français existe. Donc ce qui est vrai de la France est vrai des autres pays européens, équivalent des pays hellénistiques de la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Je pense qu'il n'y a pas besoin de catastrophe pour ça. D'ailleurs, notre avenir, nous l'attendons d'un des deux grands, comme les pays hellénistiques attendaient l'avenir de Rome ou de Carthage. Nous disons, est-ce que l'avenir, est-ce qu'on va être mangé à la sauce russe ou à la sauce américaine? Vous, on n'y croit pas, vous. Les Chinois sont sots. Ils auront leur heure, comme les Nubies dans la leur. Ils font trembler le grand état de demain, certainement. Comme les Nubies ont fait trembler Rome. Mais ce ne sera pas un des, ce n'est pas un des grands états qui peut assurer l'avenir, qui peut faire l'avenir. Or, là, il y a comme une malignité du destin, il y a quelque chose de très étonnant. Il y a généralement deux grandes tendances. Il y avait, il y a 4000 ans, c'était la Syrie et les larmes. Bon. C'est la même chose. Il y a d'une part un état qui se présente comme dogmatique, comme théorique, contenant une structure très définie de l'esprit nouveau, donc de la politique nouvelle, de la société nouvelle. C'est le cas de la Russie, évidemment. Et l'autre qui, au contraire, semble plus plus rationaliste, d'une certaine manière, plus ouvert aux différentes tendances, aux différents humanismes, et puis, mon Dieu, pas tellement guidé par le Dieu du nouveau, le Dieu américain, c'est encore le Dieu puritain de la Bible, c'est encore le Dieu protestant, essentiellement. Bon. Mais, et le Dieu juif, puisque l'importance des juifs en Amérique, qui explique aussi d'ailleurs cette importance de la Bible et du protestantisme. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a 2000 ans, l'empire théorique, l'empire dogmatique qui attendait un dieu de la mer, qui honorait déjà avant tout, a cessé ce rationalisme que je décrivais pour revenir à des cultes étranges, à des cultes Eshmon, le poisson. Bon, et c'était Carthage qui allait dominer la mer, c'était Carthage qui dominait les mers, c'était Carthage qui instaurait une certaine notion nouvelle, Salambo, très bien, si vous voulez, pas d'autres livres. Or, Carthage a été détruite, mais Rome qui a triomphé n'a triomphé que par l'esprit de Carthage. C'est-à-dire que tout l'esprit de Carthage est passé à Rome. L'Hermès carthaginois est passé à Rome, la conquête des mers est devenue romaine. La domination, toute la pensée carthaginoise est devenue romaine. Physiquement, c'est Rome qui a triomphé, mais idéologiquement, c'est Carthage. Et moi, je crois dans le même esprit, les prophètes du Moyen-Âge ne le disaient pas, ils annoncent seulement le grand État, la nouvelle Rome, le grand empire, bien sûr. Moi, je pense que l'Amérique vaincra, comme Rome a vaincu Carthage, et ça, j'aurai un tableau, je pourrais vous expliquer, demain matin, il faut réserver des choses pour matin, je vous expliquerai pourquoi je le crois géographiquement. Je crois que Rome vaincra, mais que cette Rome qui vaincra, et qui sera le grand état du 22e siècle, sera une Rome marxiste. Que ce sera une république marxiste, sans doute dominée et gouvernée d'ailleurs par des Noirs, qui affrontera les États jaunes, les États asiatiques. Le blanc n'aura plus une grande importance pendant quelques siècles. En tout cas, je pense qu'il renaîtra en 3 ou 4 siècles, comme on a vu renaître à Rome des empereurs qui n'avaient plus rien de romain. Et puis comme le Christ lui-même n'était pas romain, bien sûr. Mais il y aura certainement demain, dans ce grand État, à la fois la position géographique de l'Amérique actuelle, des États-Unis actuels, et le contenu idéologique de la Russie soviétique. Ça nous semble paradoxal et étrange, mais je suis sûr que ça peut se passer ainsi, et que c'est ainsi que ça s'est passé il y a 2000 ans. Et je pense, par exemple, puisque tout de même nous parlons des 20 prochaines années, je ne vous parlerai pas d'événements, mais de croyances. Il y a une chose qui a été au moins prédite, notamment par des prophètes chrétiens du 19e siècle. C'est le combat entre les frères Gémeaux et le serpent. Le nouveau combat entre les frères Gémeaux et le serpent. Et ça semblait une de ces prophéties, il y a encore 10 ou 15 ans, et qui semblait erronée, qui semblait pas pouvoir se réaliser, puisque les fraternalistes, les socialistes, les socialisants, les égalitaristes et les savants allaient la main dans la main. C'était la même chose. C'était le même rationalisme qui voulait que la science soit toute puissante, que le progrès soit guidé par la science et que ce progrès soit un progrès socialiste, humanitariste. Donc il semblait y avoir alliance entre les deux structures. Je pense qu'actuellement on voit se dessiner ce combat. On voit se dessiner déjà dans des articles de presse, dans des œuvres savantes, où l'on accuse, où les savants accusent, ou certains ethnologues, ou certains scientifiques, des soviétiques eux-mêmes, accusent les pays socialistes non seulement de faire le malheur de l'humanité, mais de vouloir ce malheur. Qu'en fait, ils cherchaient consciemment ou inconsciemment la destruction de l'humanité par leur icarisme et leur goulag. C'était une sorte de suicide volontaire, une sorte d'auto-suicide auxquels accéderaient ces hommes. Ce sont des savants qu'ils disent. Et nous voyons d'autre part les humanistes, disons, accuser de plus en plus les savants d'être des fascistes. Ça commence par la biologie. C'est Mitterrand qui dit il y a quelque temps, la biologie c'est une tendance, la croyance en la biologie c'est une tendance fasciste. C'est une position fasciste. Ben oui, parce que la biologie a déçu l'attente des humanistes qui croyaient que la biologie allait démontrer que tous les hommes sont frères. Puis pas du tout, donc ça n'a pas démontré ça du tout. Alors, ça devient une attitude fasciste que d'être biologiste. Ça serait une attitude fasciste de croire dans les cycles galactiques auxquels on vient de plus en plus. Ça serait une attitude fasciste de croire dans le renversement du temps auquel procèdent les physiciens actuels depuis les prix Nobel de l'année dernière, démontrant que sans doute dans la réalité il y avait un sens du temps inverse de celui qu'enseignent les savants. Donc on voit très bien se profiler, et ça peut être très rapide, ça peut venir dans les 10-12 ans, un véritable conflit, une véritable guerre entre le mythe du savoir et le mythe de la fraternité. Et ça sera terrible. Ça sera terrible, peut-être pas par les effets de destruction, je ne crois pas que ça aille jusqu'à la guerre, bien que ce soit possible et que ça puisse s'exprimer par une guerre entre États, l'État islamique par exemple. Mais ça sera surtout terrible parce que ça va déchirer, ça va nous déchirer, nous et nos enfants. Nous étions quand même confortablement dans cette idée que, mon Dieu, il y avait une position de bon sens qui voulait que la science progresse, qu'elle progresse vers une humanité plus fraternelle, plus égalitaire. Et au fond, on était bien contents de nous en tirer à si bon compte. Mais si on vient nous dire pas du tout, il faut choisir, ou bien vous serez des fraternels mais vous serez des ignorants, ou bien vous serez des savants mais vous serez des fascistes, ça ne va pas devenir drôle intellectuellement.